En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. En France, en 2007, l'INSEE estime que 86 000 personnes sont sans domicile fixe. Les associations portent ce chiffre à 100 000 personnes. Le sigle SDF apparaît dès le 19e siècle sur les registres de police. Et aujourd'hui massivement employé en France, il désigne la population sans domicile fixe. On l'aura compris et intègre les significations de sans logis, de sans-abri et de mendiant. Pendant une dizaine d'années, la psychanalyste Sylvie Kézéman-Zouka a travaillé sur la problématique de la grande exclusion en collaboration avec Xavier Emmanueli, médecin fondateur du SAMU Social. Et de son travail d'enquête, elle en a tiré un livre « Je vous salis ma rue », contre-prêterie de Jacques Prévert, qui a fait l'objet d'une discussion animée à l'Académie nationale de médecine lors de la journée du livre qui s'est déroulée en septembre 2007. Dans quelle mesure accompagner les sans-abri sans entrer dans la cistana ? Les tentes délivrées par Médecins du Monde au SDF en novembre 2006 étaient-elles une bonne initiative ? Nous vous proposons de suivre la discussion animée et passionnante que suscite le livre de Sylvie Kézéman-Zouka. Au cours de cette diffusion, vous entendrez l'auteur elle-même, ainsi que son collègue et ami Xavier Emmanueli. Elle répond aux questions de Marc Gentilini, membre de l'Académie nationale de médecine et ancien président de la Croix-Rouge, ainsi que de Jacques Batin, également membre de l'Académie nationale de médecine.
Voilà, je suis bien sûr tout à fait émue. Je voudrais d'abord et avant tout remercier Xavier Emmanueli, parce que je me considère un peu, même beaucoup, comme une élève. C'est-à-dire que si je suis venue travailler avec lui, c'est vraiment parce qu'il a posé deux questions qui m'ont semblé comme ça extrêmement fortes et qui m'ont décidé à venir. Ces deux remarques, ces deux questions, c'était que se passe-t-il pour que les hommes dont je me suis occupée à Nanterre ne se regardent plus dans les miroirs ? Et cette question, forcément en tant que psychiatre, psychanalyste et en tant que médecin tout court, m'a beaucoup intéressée. Qu'est-ce qui fait que des hommes fuient leur reflet ? L'autre point abordé par Xavier Emmanueli quand il cherchait comme ça à constituer une équipe de psychiatres et d'infirmiers psychiatriques tournait autour d'une autre question qui n'est pas spécifiquement psychiatrique qui était que se passe-t-il pour que des hommes qui sont porteurs de lésions somatiques qui nous feraient nous hurler en arrivent à ne plus dire, à ne plus même pouvoir dire j'ai mal. Donc voilà, c'est un petit peu les deux questions qui m'ont fait venir et j'ai essayé je crois que ce livre, c'est une introduction à ces questions, mais rien n'est résolu, ce ne sont pas des réponses.
J'ai beaucoup apprécié votre livre, parce qu'il est, à mon avis, très bien écrit. Et la lecture m'a enchanté. Tous les livres qui nous ont été présentés ne m'ont pas donné la même impression, mais le vôtre, certainement. Il est très bien écrit, donc j'aime votre livre, et j'ai horreur de votre titre. Car votre contre-pétrie, elle est facile, elle m'agace, et je rejoins Xavier Emmanueli qui le dit clairement dans sa préface, je crois que c'était la deuxième page de ta préface, ou la troisième page, que ça te gêne un peu que on parle ainsi de cette prière, du respect, de l'espérance qu'elle porte. C'est vrai que c'est un peu gênant. Mais moi, je voudrais vous dire que vous posez quelques questions. D'abord, ce qui me plaît dans votre livre, c'est que il n'y a pas de position politique. Quand j'ai vu votre livre, je me suis dit, ça y est, encore un livre où on va nous raconter, on va culpabiliser les uns, diaboliser les autres, Non, il n'y a pas de prise de position politique. Mais il y a un petit défaut aussi, il n'y a pas de solution. Vous faites un formidable constat, vous n'apportez que peu de remèdes. Mais vous allez me dire le contraire, certainement. Je voudrais vous dire aussi que ce qui m'a frappé, c'est l'excellente description des différentes catégories de ceux qui sont à la rue. Parlez-nous de la violence. Tous ces gens qui sont dans la rue, Xavier, tu les connais bien, sont des gens globalement violents. Est-ce vrai ? Et quelle forme de violence ? C'est ma première question. Deuxièmement, vous avez une longue bibliographie à la fin de votre livre. Vous avez lu évidemment tous les livres que vous avez cités en bibliographie. Et je voudrais que vous me parliez un peu des positions d'un auteur qui s'appelle Patrick Declercq et de ses deux livres. C'est pas pour vous gêner, mais je vois que vous réagissez déjà. Et vous avez des phrases à l'intérieur de ce livre sur lesquelles je vous souhaiterais que vous reveniez. Est-ce la rue qui rend fou ou la folie qui mène à la rue? Et une deuxième phrase que j'ai perdue, ah non, je l'ai retrouvée. L'un de ces marginaux dit « Demain, c'est aujourd'hui en pire ». Alors voilà, sur ces quelques phrases, donnez-nous vos réactions. Mais simplement, j'aurais rappelé à Xavier Emmanueli qu'au début de sa préface, tu écris « Sylvie est médecin et qui plus est psychiatre ». Moi, j'aurais préféré que tu écrives « Sylvie est psychiatre et qui plus est médecin ». Parce que finalement, c'est sur son aspect médical, et tu as terminé ton propos par la compassion, c'est là-dessus, c'est ça qui est... Or, moi, je trouve plus de compassion, mais je n'aime pas beaucoup les psychiatres, ça se sent, je trouve plus de compassion chez les médecins que chez les psychiatres, voilà.
Sur le titre, je voulais vous faire part d'un relatif accord avec vous, c'est-à-dire que ce titre que j'avais trouvé, je l'avais mis en sous-titre. Et évidemment, l'éditeur l'a trouvé superbe parce que accrocheur. Je l'aurais mis moi-même personnellement en sous-titre. Voilà, maintenant je suis contente. Prévert, c'est une contrepétrie qui n'est pas de moi. Il faut bien le savoir, ça vient de Prévert, d'un poème qui s'appelle « Je vous salis ma rue ». Et voilà, je l'assume. Mais voilà. La violence, sont-ils tous violents? Je pense que tout dépend de ce qu'on appelle la violence. Je pense que, comme je le dis à un moment donné dans mon livre, peut-être qu'une des pires violences, c'est celle qu'on ne voit pas. Ce sont effectivement ces gens qui vont disparaître au monde et ne plus rien nous demander. Ce sont ces gens dont Xavier soulève les habits et voit des plaies monstrueuses et qui n'appellent plus. Donc peut-être que la pire des violences, c'est parfois une violence invisible. Maintenant, les gens qui sont dans la rue, finalement, pourraient être... Oui, Xavier ?
On en a souvent parlé avec Sylvie. Dans les rapports dans la société, les rapports entre les gens inclus, si j'ose dire, il y a des petites parades pour apaiser les rencontres. C'est la politesse, par exemple. On se regarde, on se voit, on se tient à distance, et c'est une petite... parade d'approche pour ne pas être tout de suite dans la pulsion. Et donc, d'une certaine façon, la rencontre est apaisée par de la symbolique. Dans la rue, il n'y a jamais de symbolique. Et l'autre, on va se méfier parce que on est à la merci de sa pulsion. Personne ne s'aviserait à appeler les gens monsieur, madame, vouvoiement, enfin, et tenir la distance. Et on est tout de suite dans l'essentiel. Et l'autre qui vous approche, il vous approche pas avec des bonnes intentions. Même les secours, ils se demandent au nom de quoi. Peut-être que c'est pour les éloigner. Et je me souviens de Nanterre où c'était la police qui ramassait les gens de manière coercitive, content pas content, allez hop, embarqué dans le camion. Et donc la violence, elle est, Marc a raison, elle est inhérente à ce mode de vie, peu ou prou. De toute façon, il n'y a pas de parade et de rituel d'approche, on est directement dans la pulsion.
Alors, je voudrais revenir sur cette violence et sur le reproche qu'on fait parfois à certains de proposer justement ce ramassage systématique que tu viens d'évoquer. Quelle est votre position vis-à-vis de ces méthodes un peu de force dans la rue? Est-ce qu'il faut laisser les gens dans la rue, en hiver en particulier, ou doit-on faire de toute façon quelque chose pour eux? C'est un long débat qu'on connaît bien, mais votre position personnelle?
Alors ma position, je pense que d'ailleurs c'est une des raisons qui m'a fait écrire ce livre, c'est pour essayer d'y voir plus clair, et pour me rendre compte et essayer de partager avec les lecteurs le fait qu'on ne pouvait pas parler des SDF en général. Je crois que c'est une des choses que j'ai découvertes, c'est la multiplicité du type de personnes et de situations extrêmement variables, c'est-à-dire que un malade mental désocialisé atteint d'une psychose chronique depuis des décennies, qui a connu de multiples hospitalisations depuis 20 ans et qui est dans la rue depuis 10 ans, la question ne va pas se poser de la même manière avec un jeune errant qui débarque, qui n'est pas porteur d'une pathologie psychiatrique avérée, ou bien encore avec une femme battue, alcoolisée, qui se retrouve là. Donc je me bagarre, effectivement, contre une espèce de... Encore hier, d'ailleurs, je me suis bagarrée parce qu'il y avait une réunion pour le problème d'une dame psychotique à la rue, et on me demandait en face, je ne peux pas dire qui, parce que on me disait, bon, ça va nous servir de modèle pour les autres situations. Et j'ai dit non, cette dame, c'est une grande malade psychiatrique, il y a une famille, il y a de l'argent, donc on n'est pas dans un problème de désocialisation, on est dans un problème de pathologie psychiatrique. La méthode qu'on va peut-être imaginer être la moins pire, si je peux dire, pour elle, elle n'est pas exportable et standardisable. Et c'est ça qui me fait peur dans la question du ramassage uniquement par des temps de grand froid, c'est d'imaginer qu'il s'agirait dans ces moments-là d'une position uniforme de tous les SDF qui, effectivement, comme nous, craignent le froid, mais qui servirait de caution à une position hygiéniste dans laquelle se mêle à la fois une position compassionnelle d'identification à la personne qui a froid, mais en même temps qui sert parfois d'alibi au fait de nettoyer les rues. Donc c'est très complexe, très compliqué, et je crois qu'on ne peut pas avoir une seule position uniforme.
D'accord. Je voudrais vous rapporter l'expérience que je vis presque tous les soirs en rentrant chez moi. J'habite dans l'Essonne et je passe par la 118 vers l'hôpital Pompidou avant de gagner la direction de Sèvres. Je vois sous un pont, depuis des mois, un homme qui vieillit progressivement, qui s'abîme progressivement et qui est là en permanence avec quelques éléments qui campent sous ce pont, et il y a des centaines et des centaines d'automobilistes qui passent tous les jours. Et personne ne s'arrête. L'endroit est très difficile pour un arrêt d'automobile, mais tout de même, comment se fait-il que l'ensemble des moyens mis à la disposition de tous les travailleurs sociaux ne puissent pas être mobilisés pour secourir cet homme qui n'a certainement pas choisi définitivement ce mode de résidence ?
Votre question, finalement, embraye sur la précédente, c'est-à-dire qu'effectivement, un des effets parfois d'une prise en charge un peu policière de la question de l'exclusion fait que pas mal de personnes vont aller de plus en plus loin pour échapper à cette espèce de veille sociale qu'on peut opérer. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxièmement, quand il s'agit d'une problématique sous-jacente, par exemple psychiatrique, et je ne suis pas en train de dire que tous les SDF sont atteints de pathologie psychiatrique, mais pour certains, le choix, avec trois paires de guillemets, du lieu de protection, si on peut dire protection, ne va pas être neutre. Alors pourquoi dans des lieux si inhabituels pour nous ? Je crois que c'est la question que je pose dans mon livre, c'est effectivement un rapport à l'espace tout à fait autre, c'est comme si ces gens venaient habiter tout l'espace de la ville qui n'a absolument pas été créé pour de l'humain. Comme s'ils avaient finalement entériné le fait qu'il n'y avait pas de place pour eux dans des lieux humanisés.
Sylvie, si vous permettez, je suis président de la République. Ça te surprend, mais... Je vous confie le ministère de la rue. Que me proposez-vous comme solution immédiate ? Pas définitive, mais quelle proposition, tout de suite ?
D'abord, je prends pas les Don Quichotte comme secrétaire d'État, d'abord. Non, je me mettrais à faire des petites structures dans des quartiers. Je mettrais au cœur des problématiques la question de la réciprocité sociale. C'est-à-dire que, au-delà de la question de la prise en compte de l'épuisement de ces personnes, j'essaierais, tant que faire se peut, notamment pour ceux qui viennent d'arriver dans la rue, de les laisser et de les remettre dans l'idée d'une réciprocité sociale. C'est-à-dire que j'entends très souvent le fait de personnes qui me disent « Nous, on sait très bien qu'on n'a plus rien à vous apporter. » Et je crois que c'est là qu'il y a quelque chose à faire, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour certains d'entre eux, ce dont Xavier a longuement parlé dans ses livres, bien sûr que cette réciprocité, il sera trop tard. Mais il y a d'autres choses à faire, notamment dans la reprise en compte et la réhabilitation de la notion de leur corps. Donc je mettrai du personnel qualifié, bien payé, à s'occuper des plus cassés, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on fait, avec des supervisions pour les professionnels, parce que ce sont des lieux de travail extrêmement mortifères. Et j'imaginerais des petites structures qui coûteraient sans doute moins cher que tous les systèmes qu'on fait aujourd'hui, j'en sais rien, où on mêlerait la question de la citoyenneté, parce que je suis extrêmement frappée dans mon cabinet de voir combien de personnes ont envie d'aider. énormément, hein. Et je mettrai ces petites structures en lien avec les mairies, les quartiers, si on prend Paris, en ne mettant pas à part les malades mentaux et les autres, mais plutôt la question de la désocialisation comme critère, en faisant des petites structures dans lesquelles, pour ceux qui seraient les plus désocialisés, on les aiderait le plus dans ce rapport au corps, comme je le disais, et puis petit à petit, on les remettrait un peu au travail de la question de leur autonomie, de leur question de pouvoir apporter quelque chose aux autres.
Alors, je vous ai interrogé sur Patrick de
Clercq,
sur les deux titres de ces deux livres que vous avez signalés. Et puis, je voudrais que vous donniez un mot sur les tentes. Vous savez, les petites tentes à aligner tout le long du canal, ou bien les petites tentes qu'on nous promet là autour du pont, je ne sais plus quel pont,
le pont des Arts et voilà. Le Louvre.
Que feriez-vous ? Ça, vous trouvez que c'est une solution, même provisoire ?
Je commence par Patrick de Clercq ou...
On va commencer par de Clercq, oui.
Alors, Patrick de Clercq, je crois que d'abord, il faut être clair, c'est une référence. On peut pas faire sans. C'est incontournable et c'est très bien écrit. C'est un incontournable. Le problème que j'ai eu à la lecture des Naufragés, alors que je commençais juste à travailler dans ce secteur, c'est peut-être le fait, alors je peux en parler ici, que tout le monde pense qu'il est médecin, il ne l'est pas. Et ça induit un rapport particulier dans son rapport au corps, quand il parle de corps. C'est pas une critique, le fait qu'on le prenne pour un médecin qu'il ne le soit pas. Mais je pense que dans son rapport au corps, dans ce qu'il décrit, il y a une particularité qui est non exempte d'une certaine, comment je pourrais dire ça, faut faire attention aux mots qu'on choisit. Il y a une espèce de jouissance, parfois, dans l'horreur. Qui d'ailleurs n'est pas sans renvoyer à Céline, qui est peut-être pour lui un maître d'ailleurs, je pense. C'est pas une critique, hein. Mais j'ai été perturbée par une volonté de mettre en place une clinique, notamment psychanalytique, à partir de ce regard sur l'obscénité du corps. Voilà, j'ai quelque chose, je peux pas vous en dire plus, mais il y a quelque chose qui là m'a perturbée, mais ça reste une référence. Son deuxième livre, qui je pense pour moi est empreint d'un ton qui se veut un peu célinien, dans l'exclamation, l'indignation, m'a un peu plus ennuyée parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est bien, mais vous n'apportez pas de solution. Je vous dirai pourquoi je pense que ça n'est pas vrai, ou alors je pense que c'est le mot solution, personne n'a de solution et moi j'en aurais pas plus qu'une autre. Mais je trouve, par rapport aux travailleurs sociaux, qui sont vraiment des gens que j'ai découverts depuis que je travaille dans ce milieu et dont j'ai pu mesurer le degré d'isolation, de solitude face à de la grande pathologie psychiatrique, j'ai trouvé que dans le deuxième livre de De Clercq, c'était un peu un pouce à l'indignation, comme ça, et vraiment qui laisse les gens dans l'indignation, mais sans rien. Je pense même que ce livre a été pour moi un encouragement à continuer à écrire le mien. Et pourquoi donc je dis qu'il ne peut pas y avoir de solution, mais pourquoi il me semble que dans mon petit livre, il n'y a pas des solutions, mais par rapport aux politiques, quand on dit, voilà, on va créer des lits de stabilisation. Stabilisation, c'est forcément un mot qui, pour moi, en tant que psychiatre, psychanalyste, me choque un peu. Je ne sais pas ce qu'on va stabiliser exactement. Mais si on met des gens qui sont dans la rue depuis très longtemps, qui sont pris dans cette clinique de la désocialisation que j'ai un petit peu inventée, mais que je ne suis pas la seule à inventer, mais on fait avec nos petits instruments, si on ne prend pas acte de tout ça et qu'on met directement les gens dans des logements durs, ça ne marche pas. Voilà, il y a des instruments, mais ce n'est pas des solutions, mais il y a des outils.
Les tentes.
Les tentes. Quand un médecin du monde dit les tentes c'est bien parce que les personnes retrouvent de la dignité, ils passent et ils ont plus honte parce qu'ils ont là une espace d'intimité, tout le monde trouve ça formidable. Et j'ai des patients, encore une fois au cabinet ou ailleurs, qui viennent me dire docteur, vous trouvez que c'est bien, j'ai une tente, je vais aller la donner au clochard qui est en bas de chez moi. C'est aller très vite, hein, dans la déculpabilisation citoyenne, l'idée de la tente au niveau de la protection. Je dis rien d'abord, puis après je dis mais est-ce que donc on en est là à se satisfaire de notre culpabilité? Bien sûr qu'au début les tentes c'était pas du tout pris comme un lieu pérenne, mais ça avait été pris comme un drapeau d'indignation. Le problème c'est que justement quand on connaît un peu cette clinique de la désocialisation, et c'est là que je suis absolument d'accord avec Xavier Emmanueli, c'est qu'on risque de les figer encore plus. Et que cette clinique de l'asphaltisation dont je parlais, qui est ce moment où on ne sait plus distinguer le bout de trottoir, le bout de la jambe qui reste collé comme ça par terre, si on leur met une tente en plus dessus, en sachant qu'une tente étant considérée comme un domicile, on n'a pas le droit d'aller les voir s'ils ne veulent pas. Attention, attention.
Bien, je peux, si
tu fais ce que tu veux.
Alors, si on a encore un petit peu de temps, demandez à Xavier Emmanuelli si la position que vous venez d'exprimer correspond à la sienne également.
Sur les tentes, nous sommes bien d'accord parce qu'on en a beaucoup, beaucoup discuté. Premièrement, c'est annoncé comme une opération de communication. Ça a été dit comme ça. Je ne sais pas si on peut se permettre d'instrumentaliser les gens qui sont dans la souffrance, dans la rue. Communiquer et faire ces sauvetages artificiels sous l'œil des caméras, c'est peut-être pas une bonne méthode. La deuxième, on a installé, je parle du point de vue technique et logistique, les gens sont dans la rue, produisent des déchets, ils ont besoin de se laver, on a peut-être installé les tentes, on n'a pas installé le tout à l'égout et on n'a pas installé les douches. Donc on a créé un problème d'hygiène qu'on risque de payer. Et quand on voit des villages de tentes, c'est la reconstruction de bidonvilles cyniquement. La troisième chose, c'est que chaque fois que vous faites des tentes, vous faites des groupes, parce qu'il n'y a pas de tente isolée. Or, les groupes se hiérarchisent tout le temps. Un groupe, c'est un leader. Un leader qui amène son petit groupe. Et donc, c'est une aliénation qu'on fabrique. Enfin, comme le dit Sylvie, en d'autres termes, c'est comme si on considérait que les excuses, c'est dans la rue, tout le monde a le même statut. Donc, on construit pour les exclus, pour les clochards, pour les gens de la rue, des tentes, et on n'a pas le droit de rentrer, c'est un domicile, pour les surveiller. Une des vertus du SAMU social, c'est de pouvoir suivre l'évolution des gens. Quand ils sont renfermés, eh bien, on ne peut plus voir leur évolution. Enfin, c'est pas digne. La tente, c'est un petit peu la tanière, l'abri. À mon avis, il faut donner aux gens des hébergements dignes où ils puissent profiter de l'hygiène, de la sécurité. Pour toutes ces raisons, j'ai condamné vigoureusement les tentes en pensant que, premièrement, sur le principe, on ne fait pas de la communication, je le dis pour les tentes, mais pour les enfants de Don Quichotte, on ne fait pas de la communication avec la souffrance des gens. Je crois que ces actes-là sont trop engageants et il s'agit de la vie des gens, donc on fait profil bas. Deuxièmement, la solution est indistincte. Et troisièmement, c'est comme sous les tentes, c'est pas les plus malheureux qui sont, mais vous trouvez beaucoup de gens venus de l'Est, des Bulgares, des Roumains, enfin, qui reconstruisent avec des groupes une espèce de société parallèle. Donc voilà ce qu'induisent les tentes. Et ces tentes de Médecins du Monde ont fait des gens encore plus radicaux avec les enfants de Don Quichotte. Je crois que c'est une mauvaise action.
Merci beaucoup. Voulez-vous
juste rajouter quand même, néanmoins, qu'on ne peut pas nier que le fait que ça constitue une force d'interpellation du politique importante, faut reconnaître.
Oui, mais ça n'a pas fait avancer beaucoup le problème. Enfin, dire que c'est pas, je ne crois pas que ce soit là la solution, moi non plus. Avez-vous quelque chose d'autre à dire pour votre défense?
Mais il ne faut pas l'attaquer. Elle n'a pas à être attaquée. On est là pour la défendre et la lire.
Mais non, elle a trop d'avocats et le sujet est tellement d'actualité que je trouve que vous avez de la chance d'avoir pu faire un livre aussi pertinent sur ce thème-là.
Je voudrais non pas la défendre, mais dire tout le plaisir que j'ai lu à lire ce livre. L'image dont tu nous parles là, c'est celle de la couverture. Regarde, ton pont, c'est pas le même, mais c'est la même chose. C'est un pont de Paris qui est une autoroute, je sais pas où c'est, et c'est là où on voit l'homme et les voitures qui passent.
Tu as très bien regardé la couverture, c'est vrai, mais la question reste entière. C'est une photographie, donc c'est un cliché, c'est figé, et mon image, elle est figée tous les jours, je vois la même chose.
Ben oui.
Donc ça ne change pas. La question que je voulais poser, c'est évidemment pas vous qui êtes en position d'accuser, c'est la société. Pourquoi on ne fait pas davantage ?
Vous savez, par rapport à une question, peut-être je peux répondre sur une question particulière qui est la question de la folie dehors, qui encore une fois, je le dis, concerne une partie de la population des SDF et pas tous. Mais là, hier, je me suis rendu compte dans cette réunion concernant cette dame, qui est donc une grande psychotique, une grande malade mentale, mais très bien adaptée à la vie de la rue, donc c'est très compliqué. parce qu'elle a été hospitalisée de multiples fois pour des paranoïas et tout, mais finalement, ils ont réussi, certains de ces grands malades, à avoir une part non folle extrêmement bien adaptée à la vie de la rue, qui l'est faite comme d'autres SDF. Et tout d'un coup, j'ai vu les gens qui venaient me voir des magasins en me disant « mais on comprend pas ». Mais pas, cette fois-ci, c'était pas la question habituelle « débarrassez-nous-en ». C'était une vraie interrogation sur cette femme, parce qu'elle était assez belle en plus, se tenant bien. Et je me suis dit que pour la première fois, ces fous qui étaient derrière les murs des asiles, pas les malades qui viennent voir le docteur Zucca dans son petit cabinet, hein, les fous derrière les asiles, derrière les murs des asiles, on les voit dehors. Et le choc que m'a montré dans son visage cette femme qui venait de me poser la question de pourquoi ne bouge-t-elle pas, c'est la question qu'on peut se poser sur la question de pourquoi est-on fou, comment est-on fou.
Monsieur Battin.
Oui, je voudrais profiter de la présence de Monsieur Emmanueli, de Madame Zucca, pour leur faire une proposition, c'est une suggestion. L'hiver dernier, je suis allé rencontrer les enfants de Don Quichotte qui étaient dans le centre-ville à Bordeaux et j'ai vu la violence, j'ai mesuré l'importance des troubles psychiatriques, donc la difficulté de la réinsertion. Et j'ai regardé leurs mains. Alors bien sûr, la première idée est de dire bah, ils ont froid, ils ont des engelures. Mais je me suis rappelé quand même d'une vieille maladie que l'on a complètement oubliée et qui a sévi particulièrement dans ma région, dans les Grandes Landes, au début du XIXe siècle, la pélagre, la maladie de la misère, qui a disparu. Or, c'était les 3D, dermatose, avec la peau craquelée aux mains et aux pieds. Et vous parlez, madame, des pieds des vagabonds. Deuxièmement, les troubles démentiels, neurologique et démentiel, et troisièmement, le troisième D, le décès, la mort. Alors, ça a disparu chez nous, mais quand on regarde un peu, j'ai fait un peu la littérature, il y a une littérature américaine récente sur les homeless, sur les sans-logis, il y a également de la pélagre ou des états pélagroïdes en Afrique. Donc, ma suggestion, c'est de leur donner de la vitamine PP, ça coûte pas cher. Et puis vous verriez si, comme cela, vous pourriez en récupérer certains, en resocialisant certains. Voilà, c'est simple et ça ne coûte pas cher.
Vous avez envie de répondre ?
Oui, j'ai pas la réponse, évidemment, pour cette vitamine, parce qu'il faut être prudent. Avec l'observatoire de la grande exclusion, qui est lié au SAMU social, observatoire d'ailleurs qui est payé par le privé, parce que les pouvoirs publics ignorent qu'on puisse faire des études et des évaluations. On s'est aperçu qu'une des carences vitaminiques, c'était la vitamine C. Vitamine C, et je me demande, je ne suis pas un grand clinicien, si ces gens ne développent pas un syndrome infraclinique de vitamine C. La vitamine B, les vitamines B, alors là, c'est très connu. Ils ont même une surcharge en vitamine B parce que systématiquement quand ils arrivent aux urgences ils ont droit à leur piqûre de polyvitamine B. On se dit c'est des alcooliques, donc ils ont une avitaminose. Moi vous m'ouvrez une piste que je ne connaissais pas ou à laquelle je n'avais pas pensé, mais le protocole doit être extrêmement difficile à monter, mais c'est tout à fait intéressant. J'ai observé ça, cette hypovitaminose dans des camps de réfugiés en Afrique, voyez.
Vous voulez répondre aussi, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, très brièvement, ce que je veux dire, c'est que ça me renvoie à ce dont je parle, qui est que dans la grande précarité, on ne peut pas dissocier la psyché, le corps et la question de l'environnement social. Donc, vitamine, oui, mais de la même façon que le logement tout seul, non, la vitamine, pas tout seul, tout, voilà. C'est un ensemble encore plus précis et ténu que dans la non-précarité, le corps et la psyché.
La misère, la saleté, l'humidité, les carences alimentaires donnent ce qu'on appelait au XIXe siècle le pied de vagabond, ce qu'on a appelé dans les tranchées le pied de tranchée, qui sont des plaies qui n'en finissent pas de finir. Et on rencontre ça. Et je dois dire que nos médecins, en tout cas dans les urgences, ne savent pas les traiter.
Mais non, ils n'ont jamais vu. Ils ne peuvent pas les reconnaître. Ils n'en ont jamais vu.
C'est des plaies désespérantes.
Au même titre que la pélagre. Bon. Vous ne faites pas un livre de thérapeutique. On lui disait qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes présidente de la République. Vous le serez sûrement un jour, parce qu'il faut bien qu'il y ait une femme qui le soit un jour. Donc, vous avez vos petites chances. Mais, ce que vous faites, c'est un merveilleux livre. Alors, je trouve clinique. C'est de la clinique pure, la maraude. Il y a un chapitre sur la maraude. Vous êtes là en train de traîner autour de ces pauvres, vous ne savez pas si vous allez leur parler, comment ils vont vous parler. Ça, je trouve ça absolument admirable. Puis j'ai oublié la fin que je voulais sortir pour la cité, mais la fin qui est ce lieu où ils habitent maintenant, on ne sait plus où c'est. On ne sait plus si c'est une ville ou la campagne, c'est rien. C'est d'ailleurs totalement... On sort de tout pays, on ne sait plus où c'est. C'est simplement la géographie de la misère.
Au milieu de nulle part.
Au milieu de nulle part, pas mal. La géographie de la misère au milieu de toute part. Alors merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont participé à cette journée.
C'était Sylvie Kézémanzouka, psychiatre, psychanalyste, travaillant depuis une dizaine d'années sur la problématique de la grande exclusion, en collaboration avec Xavier Emmanueli, médecin fondateur du CEMU Social. Elle répondait aux questions des académiciens de la médecine sur le complexe débat de la précarité et de la meilleure manière de venir en aide aux plus désociabilisés. Une discussion qui fait suite à la publication de son livre « Je vous salis ma rue » aux éditions Stock. Cette discussion avait lieu à l'Académie nationale de médecine lors de la journée du livre en septembre 2007. Nous vous invitons à poursuivre l'écoute de cette journée du livre avec une conférence, cette fois-ci de Frédéric Vitou de l'Académie française, sur Céline, médecin et écrivain, une émission en libre écoute et libre téléchargement sur le site de Canal Académie. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions. Thank you.